Alors, en introduction, d'abord, je voudrais ôter un doute parce que d'aucuns ont pensé que ce sujet, ce serait un sujet sur la prophétie. En fait, pas du tout, hein. Donc, désolé pour ceux qui espéraient ça, mais c'est un sujet sur la gestion du temps, même si peut-être l'énoncé était un peu trop sibyllin. Alors, c'est un sujet que je vais présenter de façon un peu subjective. Sujet vu à travers les lunettes de quelqu'un qui a 43 ans, qui a une vie active, etc. Peut-être que d'autres se seraient retrouvés un peu différemment ou l'auraient présenté sous d'autres angles. Mais enfin, nous essaierons aussi de retourner vers la parole de Dieu pour avoir un enseignement qui transcende les cas particuliers. Et enfin, j'ai un enjeu particulier de gestion du temps. Pourquoi? Parce que si j'ai bien compté, Lucien plus Jean, vous avez dû dire au moins 5 ou 6 fois que vous manquiez de temps. Alors là, j'ai 45 minutes pour parler de la gestion du temps. Et si à la fin, je vous dis ben, je manque de temps, il y a quand même un petit problème quelque part. Donc j'ai une pression particulière de ce point de vue-là. Pression, en fait. Ah bon, c'est sûr. Tout à l'heure, Lucien nous a parlé de l'exemple du Seigneur Jésus. Et c'était tout à fait bienvenu pour commencer cette journée. Et ça m'a fait penser, en relation avec ce sujet, à un épisode. Le Seigneur Jésus ressuscité marche avec les deux disciples qui s'en vont vers Emmaüs. Et ça faisait quelques kilomètres de marche. Et une conversation des plus intéressantes, le déploiement de l'ensemble de l'Ancien Testament avec la façon dont l'Ancien Testament annonçait les souffrances et les gloires du Seigneur Jésus. Et puis, on arrive à Emmaüs. Et on aurait pu continuer, le Seigneur aurait manqué de temps, on aurait pu dire pour continuer à développer un sujet qui aurait pu durer des heures et des heures et des heures. Mais il s'est arrêté. Et je pense qu'il faut aussi qu'on apprenne parfois à s'arrêter et à ne pas tout dire. Et certainement, c'est une leçon dans laquelle j'ai encore besoin de progresser. Alors, l'exposé sera organisé en 4 parties. Un temps d'introduction. Ensuite, nous essaierons d'aller du temps tyran au temps serviteur. Puis nous essaierons de définir les temps des priorités avant un temps de conclusion. Tout d'abord, un temps d'introduction. Je commencerai par 2 exemples et un chant. Rassurez-vous, je ne vais pas chanter a cappella devant vous tous, je le lirai. Quelques statistiques parce qu'on ne se refait pas. Et puis le temps d'une fleur et le temps d'une vision. Alors tout d'abord, je vous propose 2 exemples. Christiane a 38 ans. Elle est mariée, elle est mère de 3 enfants d'âge scolaire et elle travaille à 80%. Christiane aime le Seigneur et elle désire s'impliquer dans son église. Elle a accepté de faire l'école du dimanche, un dimanche sur deux. Elle aime bien aussi entourer les jeunes et les personnes âgées de son église en les invitant le dimanche. Avec les activités des enfants, avec les courses, avec les soins à la maison, avec tout ce qu'il faut faire, les papiers, tout cela, le mercredi et le samedi, c'est la course continuelle. Et le dimanche est plutôt plus que bouqué. Quant aux 4 autres jours de la semaine, il passe comme un éclair. Du matin jusqu'au soir tard, elle ne voit pas la journée passer. Christiane court, 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 toute la semaine, dimanche compris. Et l'attend. Toujours cette culpabilité de ne pas consacrer assez de temps à la prière, assez de temps à la lecture de la parole de Dieu, peut-être assez de temps à ses enfants, à son mari, à ses amis, à ses voisins, à ses connaissances, à téléphoner à l'un à l'autre, etc., etc. Est-ce ça la vraie vie? Alors, Jean-Marc Lespé a exprimé ça dans un chant et je ne résiste pas au plaisir de vous le lire parce que il faudrait l'écouter, mais techniquement, je n'ai pas voulu m'avancer dans ces zones dangereuses, donc je préfère vous le lire. Et vous verrez, c'est rendu de façon assez amusante. Le matin, on saute du lit au hurlement du réveil, les membres encore tout engourdis, sans même voir le soleil. On se jette un expresso noir bien trop chaud au fond du gosier, 2 vitamines, un boudoir pour un peu plus s'exciter. Seigneur, fais quelque chose dans cette vie d'affolée. Trouve-moi une pause, ça ne peut pas durer. Troupeau de moutons entassés, bien serrés dans le métro, plus vite, encore quelques arrêts. Oh, retard de plus au boulot, à l'usine où on va pointer, réprimande assurée. Va bien falloir s'excuser, faire un quart d'heure de plus. Seigneur, fais quelque chose dans cette vie d'affolée. Trouve-moi une pause, ça ne peut pas durer. Arrive l'heure du lycée, les enfants sont vraiment crevés, mais il faut se dépêcher. Les pommes de terre ne sont pas cuites, mais à 20h, c'est l'info. pour dire que les morts vont trop vite et que tout n'est pas très beau. C'est déjà l'heure du coucher. Je n'ai pas vu le temps passer. Quelques calmants pour m'ensuquer et pour m'endormir sans tarder. Seigneur, fais quelque chose dans cette vie d'affolée. Trouve-moi une pause. Ça ne peut pas durer. On est 500 ici. Est-ce qu'il n'y en a pas quelques-uns qui se retrouveraient là-dedans? Deuxième exemple. Christian a 61 ans. Il vient de prendre une retraite bien méritée après 40 ans de vie professionnelle bien remplie. Pendant des années, il a attendu ce moment. Quand je serai à la retraite, j'aurai la possibilité d'aller à la réunion du soir. Quand je serai à la retraite, je serai moins crevé pour aller à la réunion le dimanche après-midi. Quand je serai à la retraite, j'irai faire une visite à cette sœur qui est toute seule dans sa maison de retraite. Quand je serai à la retraite, je pourrai m'occuper davantage de mes enfants ou de mes petits-enfants. Quand je serai à la retraite, j'aurai du temps pour aller marcher avec ma femme et faire une promenade. Quand je serai à la retraite. Et puis, Christian se retrouve à la retraite. Et il n'a pas appris à faire tout ça. Alors, est-ce que nos vies sont scandées par ces leitmotivs? Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai jamais le temps de faire ceci ou cela. Seigneur, fais quelque chose dans notre vie d'affolée. Il y a vraiment un problème. Alors, quelques statistiques. Vous avez ici une journée moyenne d'un Français actif, femme et homme, répartis. Bon, je ne vais pas donner beaucoup de détails, juste quelques petits chiffres quand même. C'est que hommes et femmes, finalement, ce n'est pas si différent à part le orange. Vous avez vu ce que c'est l'orange? C'est l'égoïsme masculin. D'accord? 3 heures, alors il faudrait que je retrouve mes papiers, mais 3h30 pour les femmes, 1 heure, et puis on compte volontiers le bricolage hein, et là-dedans. Hein, voilà. Quelques chiffres sur la zone rose, avant-dernière, là, hein, c'est la télévision. 2h07 en moyenne, les retraités 3h et quelques, 1h51 pour les actifs, pour les hommes, en moyenne. En moyenne. Bon. Et nous, les chrétiens, là-dedans, c'est quoi notre répartition horaire? Eh bien, moi, j'oserais prétendre que les chrétiens, ils sont encore plus stressés que les autres. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est chrétien, donc on est sérieux, on prend notre travail au sérieux, donc on a à cœur de bien le faire. On prend notre famille au sérieux, donc on a à cœur de lui dédier du temps. Nos sœurs, elles ont lu Tite et un Timothée, donc elles savent qu'il faut être occupé des soins de la maison, donc elles prennent ça au sérieux, le ménage aussi, et puis elles prennent aussi au sérieux leur vie d'église, et puis elles prennent au sérieux aussi les besoins des autres, etc., etc. Conclusion, est-ce que le chrétien en moyenne n'est pas plus stressé que la moyenne de nos contemporains? Seigneur, fais quelque chose. Alors, prenons le temps d'une fleur. Le temps d'une fleur. Qu'est-ce que c'est que la vie de l'homme? Prenons ce texte, si beau texte, du psaume 103, versets 14 à 16. Il y aurait eu beaucoup d'autres versets qu'on aurait pu trouver. L'Éternel sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, l'être humain, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Car le vent passe dessus, elle n'est plus, et son lieu ne la reconnaît plus. Et Jacques, qui fait si souvent écho à l'Ancien Testament, reprend en disant « Qu'est-ce que votre vie? Elle n'est qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps, puis disparaît. » Une fleur, une vapeur. Quand mes filles étaient petites, souvent elles allaient dans les champs, elles cueillaient comme cela de jolies petites fleurs. Le temps de rentrer à l'appartement, si on était en vacances, eh bien, c'était fané. Il fallait jeter le petit bouquet ramassé avec tant d'amour. Et c'est cela notre vie. Et pourquoi la parole de Dieu emploie-t-elle ces expressions? La fleur, la vapeur. Une vapeur sort de la cocotte minute, quelques instants après, on a oublié même qu'elle était là. Pour nous indiquer notre finitude. Pourquoi? Parce que par rapport à ce problème de la gestion de notre temps, un des prérequis fondamentaux, c'est de prendre conscience de notre finitude. Vous serez comme Dieu, avait dit le tentateur, le mauvais marketeur dont on nous a parlé tout à l'heure. Vous serez comme Dieu. Et non, nous sommes finis. Nous avons 24 heures de 60 minutes, de 60 secondes. Ou, comme je préfère le dire, 35 000 quarts d'heure par an. Pourquoi? Parce que le quart d'heure, c'est souvent une unité qui est préhensible. On n'est pas à la minute près, parfois si, pour prendre son train, mais souvent, le quart d'heure, c'est une unité utile pour faire une petite activité. 35 000 quarts d'heure par an. Voilà. Et pas plus, j'arrondis le chiffre, hein, pas plus, et la même dotation pour tout le monde. Par contre, Dieu, lui, il habite l'éternité. Et là aussi, nombreux auraient pu être les passages qu'on aurait pu choisir, mais j'ai trouvé que ce texte de Hébreux 1 qui reprend le psaume 102 est absolument magnifique. « Toi, dans les commencements, Seigneur, tu as fondé la terre, et les cieux sont les œuvres de tes mains. Eux, ils périront, mais toi, tu demeures. Ils vieilliront tous comme un habit, tu les plieras comme un vêtement et ils seront changés. Mais toi, tu es le même, et tes années ne cesseront pas. » Face à notre finitude, à notre temps limité, à la vapeur que nous sommes, c'est utile parfois de se rappeler cela parce qu'on est tellement prétentieux en tant qu'homme. Eh bien, nous avons le maître du temps, celui qui parcourt d'éternité en éternité, qui reste Dieu, qui est Dieu dans l'absolu de son être. Celui qui est le maître du temps en général, celui pour qui 1000 ans sont comme un jour et un jour comme 1000 ans. Et celui aussi qui est maître de mon temps. Et je ne l'ai pas indiqué sur le transparent, mais je le cite, ce beau verset du psaume 31, « Mes temps sont dans ta main. » Celui qui est à la fois le maître du temps en général et le maître de mon temps, à moi en particulier. Alors certes, une petite fleur, une vapeur, mais nous désirons avoir une vision. Et je commence par ce beau texte que l'apôtre Paul citait dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, quand il rappelle que David, après avoir en sa propre génération servi les desseins de Dieu, s'est endormi. La vie de David a été, tout comme la nôtre, une vapeur, une fleur, mais il a servi en sa propre génération les desseins de Dieu. Et cela nous invite à vivre dans notre temps. Ce matin, en introduction, on nous disait qu'on ne vit pas forcément en 2009 comme on vivait avant, etc. Et c'est un petit peu aussi le thème de cette journée, d'être ancré dans notre réalité de 2009. Et donc, c'est en notre génération, non pas dans la génération à Mich. Ça, c'était très bien, mais le Seigneur ne nous appelle pas à cela. Et puis, David a servi Dieu en sa propre génération. Est-ce que ça veut dire que David a été parfait? Certainement pas. Et nous les connaissons, la parole de Dieu nous rapporte au moins 7 fautes de cet homme, mais qui néanmoins a eu un cœur pour Dieu. Et à travers ces fautes, à travers une vie imparfaite, on peut néanmoins, chacun de nous, servir Dieu dans notre génération. Et pour cela, il faut qu'on cultive le temps d'une vision. Et c'est peut-être un des points clés de cet exposé, de dire que pour une gestion du temps qui ne soit pas un temps d'affolé, eh bien, il nous faut avoir ce projet d'une vie, cette vision, ce temps orienté qui sera le nôtre si, quoi que nous fassions, nous faisons tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. Que ce soit des choses les plus bassement matérielles, manger, boire, que ce soit nos aspirations les plus élevées par rapport au service que le Seigneur peut nous donner, par rapport à notre aspiration de vie en général, faire tout pour la gloire de Dieu et orienter notre vie, ne pas la subir, et avoir cet enthousiasme d'une vocation et cette vision, ce temps d'une vision qui va nous rendre efficaces dans notre gestion du temps et qui va faire qu'on va accepter de laisser de côté. Alors nous allons refuser une vie gâchée. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, disait le Seigneur. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera. Que profitera-t-il? Ah, gain ou perte? Que profitera-t-il en effet à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même? Et alors nous écoutons cet écho de l'Ancien Testament quand la parole retentit à la fin du désert. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis Dieu, choisis de mettre le Seigneur en premier dans ta vie. Choisis de mettre les autres en deuxième dans ta vie. Choisis de mettre toi-même en troisième dans ta vie. Choisis de préférer l'être à l'avoir. Choisis de préférer la relation au faire. Et souvent, si nous manquons de temps, c'est que nous nous trompons dans ces domaines-là. Donc, il vaut la peine. Là aussi, peut-être un atelier aurait été utile pour que on puisse avoir une réflexion chacun de nous. Quelle est notre vision quant à notre vie? quelle est ma vision par rapport à ma vie et comment je puis orienter le temps de ma vie par rapport à cela. Le projet d'une vie. Prenons le temps d'y réfléchir. Passons à la deuxième partie qui nous invite à passer du temps tyran au temps serviteur. Tout d'abord, quelques réflexions sur le temps selon la Bible. Nous avons l'habitude de découper le temps en trois parties, le hier, ce qui est passé, demain, ce qui est futur, et aujourd'hui, le présent. Dans un sens presque un peu philosophique, le présent, il nous échappe toujours puisqu'il est instantané par définition. Mais néanmoins, si on reprend cette division en trois, on peut orienter le temps. Et ça, c'est aussi un principe qui est très important et qui parcourt toute la Bible, c'est que, contrairement à d'autres philosophies qui s'étaient développées en particulier dans l'Antiquité et qui perdurent encore aujourd'hui, le temps n'est pas circulaire selon Dieu. Le temps est orienté. Il est orienté d'un début à une fin. Parce que, pourquoi ? Parce que Dieu lui-même a un projet. Dieu lui-même oriente son temps, si on ose dire, le temps de développement de ses plans vis-à-vis de l'homme et vis-à-vis de son fils. Et donc, il y a ce développement du temps que nous vivons dans notre dimension personnelle et qui se vit aussi dans une dimension, j'oserais dire, cosmique, à l'échelle de Dieu. Et dans ce temps-là, nous avons à vivre le passé, le présent et le futur. Et j'ai volontairement mis des polices de caractère de taille différente pour indiquer ce qui, à mon avis, est la pondération divine. Le passé. Le passé, ça peut être soit le temps des regrets, soit le temps du souvenir. On peut avoir ce temps des regrets, qui fut celui de ce vieillard introduit à la cour du Pharaon et qui pouvait dire « Les jours des années de ma vie ont été courts et mauvais. » Ou Moïse se retournant et considérant les années où Dieu a été en colère, toutes ces années où le peuple s'est détourné de lui, le temps des regrets, des jours qui ne reviendront plus, des occasions ratées, des chemins de traverse parfois suivis pendant un peu trop longtemps. Mais le passé peut être aussi le temps du souvenir de la grâce de Dieu. Et c'est l'encouragement que nous trouvons en Deutéronome chapitre 8, quand Dieu, par Moïse, indique au peuple « Tu te souviendras de tout le chemin par lequel ton Dieu t'a fait marcher. » Le souvenir de la miséricorde de Dieu. On peut aussi aller dans le futur, le temps de la présomption. Ne te glorifie pas du jour de demain, car tu ne sais pas ce qu'un jour enfantera. Proverbe 27, verset 1. Et mon père parlait parfois de la réserve de Jacques 4, 15. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si le Seigneur le permet, eh bien, nous irons ici ou là et nous trafiquerons. Alors, on avait autrefois l'habitude de dire « si Dieu le veut ». Peut-être une formule un peu convenue, mais quand on la prend au pied de la lettre, garde toute sa force et toute sa pertinence. Effectivement, si Dieu le veut, demain, nous ne pouvons pas en disposer. Mais demain, c'est aussi le temps de l'espérance. Et on ne peut pas mieux résumer cela que par l'expression qu'on trouve en 1 Timothée 1, verset 2, où l'espérance est concentrée et résumée en Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre espérance. Te voir dans les hauts cieux, contempler toute ton image et dire avec les bienheureux ta gloire d'âge en âge. C'est cela notre espérance. Et donc on est orienté aussi vers le futur. Mais le temps de Dieu, c'est d'abord le temps du présent. Alors le présent, ça peut être aussi le temps de l'incrédulité. Ce n'est pas coordonné avec Jean, mais il a rappelé ce verset d'Ésaïe 22, cité en 1 Corinthiens 15. « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Je vis le temps présent. » I take all the gusto from it, comme diraient les Américains. Je prends tout ce que j'en peux. Et puis, je me contente au temps présent. Le passé, je m'en moque. Le futur, de toute façon, il n'y en a pas pour l'homme. Je me contente du présent. Mais ce n'est pas cela la vision de Dieu. La vision de Dieu, c'est que le temps présent, c'est le temps de Dieu. Et pour cela, nous allons regarder trois mots qui vont nous inciter à vivre le temps présent. Le premier de ces mots, c'est « aujourd'hui ». Aujourd'hui, c'est le mot du salut. Le Seigneur pouvait dire à Zachée « aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison ». On peut bien penser qu'ici, le salut est déjà venu dans le cœur de chacun de ceux qui sont là, et nous en sommes reconnaissants. Mais on peut penser aussi à nos enfants qui sont là, prise en charge aussi. Ça peut être aujourd'hui le moment d'une parole, peut-être, pour que le salut vienne dans leur cœur. Aujourd'hui, c'est le mot que le brigand repentant a entendu sur la croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et aujourd'hui, c'est l'avertissement aussi, pour peut-être l'un ou l'autre d'entre nous qui aurait tendance à aller sur un chemin et qui aurait besoin d'être repris. Je crois que c'est le cas de chacun d'entre nous, qui n'a pas été repris par tel ou tel aspect de l'exposé de Jean tout à l'heure. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, et on est bienvenu ici pour écouter la voix de Dieu, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Mais aujourd'hui, c'est aussi le mot de la ressource de Dieu. Et la prière dominicale a cette si belle expression: Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. Chaque jour, nous avons besoin de la ressource de notre Dieu. Le présent de Dieu, c'est aussi le moment de mettre des choses en priorité. Premièrement, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Matthieu 6, verset 33. Et aujourd'hui, c'est le présent de Dieu, c'est aussi maintenant. Maintenant, c'est le mot de l'engagement. Ce que je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, verset 20. Et par rapport au service du serviteur, 2 Corinthiens 6, verset 2, voici, c'est maintenant le temps favorable pour le serviteur, pour qu'il puisse servir de façon agréable à Dieu. Mais cet engagement, comment le vivre maintenant? Eh bien, si on ne réalise pas notre position en Christ. Et c'est pour cela que, bien souvent, quand on regarde les occurrences de ce terme maintenant dans le Nouveau Testament, c'est très souvent rapporté, non pas simplement à une action qui nous est demandée, par rapport à un engagement que nous avons à prendre, mais d'abord et avant tout par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui. Il y avait le autrefois et désormais il y a le maintenant. Et peut-être que l'expression la plus triomphante, nous la trouvons en Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Le présent est, je dis, et me semble-t-il, le temps de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable, il fait son marketing pour le passé ou pour le futur. Il cherche à nous renvoyer dans le passé des regrets inutiles, de l'oubli de la purification des péchés d'autrefois, le passé des remords. Ou alors, il cherche à nous envoyer dans le futur des vaines rêveries. Ah, oh, et si demain j'avais ceci ou cela, ou que sais-je? Et en fait, il veut nous détourner du présent où Dieu veut agir en nous d'abord et par nous ensuite. Alors, il y a eu quelqu'un qui a bien vécu ce présent de Dieu. Et je prendrai l'exemple de l'apôtre Paul en Philippiens 3, versets 13 et 14. Il dit: Je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière. Et qu'est-ce qu'il avait oublié, Paul, by the way? Qu'est-ce qu'il avait oublié? Beaucoup de choses. On a parlé de gain ou perte, effectivement, c'est directement tiré de ce chapitre. Et dans la colonne débit, Paul, il avait d'avoir persécuté l'assemblée de Dieu, d'avoir amené des frères et sœurs à blasphémer des choses terribles. Donc il aurait pu se réfugier constamment dans ce passé qui aurait pu le tarauder. Mais qu'est-ce qu'il en retire? Miséricorde m'a été faite, et puis j'avance. Donc, oubliant ce qui est derrière, étendant avec effort vers ce qui est devant, je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Ce but, c'était certainement un but futur dans le sens de sa présence avec le Seigneur. C'est ce qu'il exprime au chapitre 1 de cette lettre. Mais c'est aussi, me semble-t-il, ce but d'orientation de sa vie. J'ai été saisi par le Christ. C'était ça, sa vision, le temps de sa vision. Il l'avait eu sur le chemin de Damas quand le Christ ressuscité lui était apparu en lui disant: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il avait eu ce temps de cette vision. Alors lui avait eu une vision particulière, nous ne l'avons pas eu chacun de nous, mais nous pouvons néanmoins prendre ce temps de la vision pour orienter notre vie. Et il avait un but. Il avait un but dans sa vie. Il ne courait pas comme battant l'air, dit-il ailleurs, parce qu'il avait une vie orientée. Et je pense que l'apôtre Paul a eu une vie occupée, mais pas une vie d'affolée. Alors, savourons ces verbes au présent. Je fais, je cours, je tends. Et ayons un but dans notre vie. Si on en vient maintenant à des considérations plus pratiques, comment gérer ce temps qui a été orienté et ce temps présent? Eh bien, je vous propose quatre verbes, quatre actions pour gérer notre temps. La première action, c'est prioriser. Ça aussi, c'est peut-être quelque chose qu'on peut retenir. On a toujours du temps pour ce qu'on estime être important. Si je vous demandais qu'est-ce qui est important dans votre vie, oh, vous me répondriez des choses très comme il faut, qui font bien plaisir, comme on dit, hein. Là, ce qui est important, c'est le Seigneur, c'est... Hein, bon, ok, très bien. On va faire l'exercice à l'inverse, si vous voulez bien. C'est-à-dire que vous allez me dire à quoi vous passez votre journée. Et puis moi, je vais vous dire ce qui est important. Parce que si pour vous, je dis n'importe quoi, c'est important de secouer les couettes par la fenêtre et que vous le faites tous les matins très sérieusement, eh bien, ça veut dire que c'est important pour vous. Alors, spontanément, vous ne me diriez peut-être pas, secouer ma couette par la fenêtre tous les matins, c'est important. Mais si vous prenez du temps pour le faire, et c'est très bien de le faire, hein, il faut chasser les acariens, c'est pas ça le souci. Mais juste pour dire qu'il y a des choses qui, peut-être spontanément, ne nous apparaissent pas dans notre esprit comme étant importantes et qui, en fait, le sont dans notre vie, parce qu'on y consacre du temps. Donc, ça vaut la peine de faire un peu de ce qu'on appelle du reverse engineering, c'est-à-dire de regarder à quoi on utilise notre temps et puis à savoir si effectivement c'est important ou pas. Alors, ceux qui s'intéressent à la gestion du temps définissent volontiers les quatre cadrans, hein, sur deux axes, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est urgent. Donc, il y a quatre cadrans. Le premier, c'est celui qui est en rouge foncé, pas la peine d'en dire grand-chose, parce que ce qui est à la fois urgent et important, on le fait. Ça, il n'y a pas de souci. Il faut d'ailleurs combiner les deux. Le deuxième secteur, c'est celui qui est en rouge vif, et c'est là où se situent les problèmes. C'est souvent là que se situent les problèmes. Il y a des choses qu'on estime être importantes dans notre vie. Si on réfléchit calmement, à plat, on se dira oui, ça c'est important pour moi. Mais on le fait passer après le secteur 3, le secteur orange, c'est-à-dire des choses urgentes, mais pas franchement importantes. Et le secteur 3, c'est précisément celui qu'on est encouragé à réduire. Qu'est-ce qu'il y a dans le secteur 3? Bien, il peut y avoir par exemple les choses qu'on se fait imposer. Oh, c'est très urgent, il faut absolument que tu fasses ça. Mais momento, il faut voir, hein. C'est pas forcément aussi urgent que ça peut le paraître. Il y a des gens qui ont une capacité assez étonnante à faire paraître urgent toute chose qui les concerne, même si ça peut être des détails. Et il faut que nous apprenions à dire poliment, affectueusement, mais fermement non à certaines sollicitations qui sont manifestement urgentes, mais pas forcément importantes. Une autre chose qui est urgente, c'est la pression médiatique. Le 20 minutes que je trouve dans ma gare tous les matins, eh ben, il va sentir le réchauffé si je le lis demain. Et donc, qu'est-ce que je vais faire pendant mes trajets de train? Est-ce que je vais... J'ai 25 minutes de train, vous voyez, ça colle, hein? Que je vais le dévorer ou au contraire, je vais prendre un temps de lecture? Et les informations que j'aurais pu glaner, eh ben, demain, elles seront obsolètes. Mais est-ce que si c'est vraiment important? La dictature du journal télévisé qui commence à 20h, du film qui commence à 20h35, ben voilà, ça c'est vraiment urgent, c'est-à-dire que si on loupe le début, on l'a loupé. Ben encore que maintenant il y a des systèmes, mais bon, on ne les a pas forcément, hein. Donc, on l'a loupé, on l'a loupé. Donc, est-ce que c'est vraiment important ou est-ce que c'est urgent? Certes, c'est urgent, mais posons-nous la question si c'est vraiment important. Rappelons-nous, on a toujours du temps pour ce qui est important. Le deuxième verbe, c'est renoncer. Renoncer. Il faut que j'apprenne à renoncer. Pourquoi? C'est directement lié au temps d'une fleur qu'on a vu en introduction. Je suis fini. Je ne peux pas tout voir. Je ne peux pas tout savoir. Je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas tout lire. En sortant là, il y a Hélène qui a fait un magnifique stand de la CLC, plein de bouquins. On n'a pas le temps de tous les lire. Absolument pas. Alors heureusement, elle va nous guider en fonction de nos besoins, mais on n'aura pas le temps de tous les lire. Et est-ce qu'on va vivre cette vie d'affolée, ce sentiment intérieur de pression parce que, oh là là, il y a ce livre-là et je ne l'ai pas encore lu? Ça peut nous guetter. Ou autre exemple, je suis en vacances. Est-ce que je vais prendre la voiture pour courir et voir tous les musées du coin pour être sûr d'avoir rien oublié et de dire, oui, j'ai fait, vous savez ce verbe, j'ai fait ceci, 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 cela? Question d'image aussi, quelque part, hein. Alors, aussi un autre exemple, le consumérisme. Je vais peut-être passer beaucoup de temps à surfer sur Internet, il faut que je change ma cuisinière. Prenons un exemple. Je veux changer ma cuisinière. Ah, aujourd'hui, hier, qu'est-ce qu'on faisait? On allait dans le marchand du coin, il avait peut-être deux modèles, un cher, un pas cher, on prenait en fonction de son budget. Dit qu'aujourd'hui, vous allez surfer sur Internet, vous allez le comparatif Darty, 126 articles, vous cochez les 11 premiers. Et puis, ah non, en fait, il faut que vous alliez de nouveau sur la page. 1h20 de perdu, comme si c'était fait. Est-ce que mon heure 20 vaut les 20 euros que j'aurais gagné sur ma cuisinière? Posons-nous la question. Alors on me dira, ah mais oui, mais ces 20 euros, je vais pouvoir les mettre dans la collecte le dimanche. À voir. Pour renoncer, il faut être fort. Renoncer, c'est une stature d'adulte. C'est une stature de chrétien mature. Je renonce, j'accepte ma finitude. J'ai la maîtrise de moi par rapport à ces sujets-là. Le troisième verbe, c'est organiser. Il y a ce qui se perd faute de règles, dit Proverbe 13, verset 23, si on le prend dans ce sens. Identifier les voleurs de temps. Alors, les voleurs de temps, c'est typiquement chercher partout pendant une heure ce truc-là que je savais bien avoir mis ou rangé quelque part, puis finalement, je n'arrive pas à le trouver. Alors, il y a des gens qui ont un naturel plus ou moins organisé, plus ou moins précis, etc. Mais franchement, je constate quand même qu'en moyenne, les gens plutôt organisés, plutôt ordonnés, etc., vivent un peu mieux leur temps que les gens qui sont pagayous. Donc, c'est quand même mieux de se discipliner un peu à cela. Et l'exemple, là encore, nous vient d'en haut. Le Seigneur était dans la chambre haute avec ses disciples, il venait de prendre la scène, il entame ses dernières paroles. On était bien dans cette pièce, dehors il faisait noir, et puis il y avait une perspective tellement sombre. Et qu'est-ce qu'il dit au bout du chapitre 14 ? Levez-vous, partons d'ici. Il n'a pas voulu prolonger parce qu'il y avait son heure, il y avait son temps. Sans perfectionnisme excessif, ai-je ajouté. Et là aussi, l'exemple nous vient d'en haut. Le Seigneur, en route vers la maison de Jaïrus, sait s'interrompre quelques minutes pour parler à une femme qui avait besoin d'un contact. Donc on voit que cette organisation, ça doit être à mon avis un principe plutôt général dans notre vie. Mais il faut savoir aussi se laisser un petit peu désorganiser quand le Seigneur le permet. Et puis le quatrième verbe, c'est déléguer. Ne pas se croire indispensable. En Exode 18, Jéthro a eu un regard extérieur intéressant sur la vie de Moïse, qu'il voit submergé de responsabilités. Il dit « Mais délègue !» Et les choses se sont mieux passées. En Acte 6, les apôtres aussi étaient submergés. Ils allaient même faire le service aux tables. Et ils prennent conscience qu'il faut qu'ils délèguent. Il y a des choses que d'autres peuvent faire à ma place. Ah, peut-être pas aussi bien, aussi, de façon aussi parfaite que ce que moi je pourrais faire. Certes, j'ai un collègue qui a ce syndrome-là, il a énormément de mal à déléguer et sa patronne lui disait « Mais écoute, tu sais, le standard, il n'y a sans doute personne dans la maison qui ferait aussi bien le standard que toi, mais tu n'es pas payé pour aller au standard. » Et parfois, il faut qu'on se pose la question de si ce n'est pas aussi une volonté de perfectionnisme et de tout prendre à soi ou de valorisation de soi qui nous fait pas déléguer. Alors on peut en venir, si on réalise cela, au temps serviteur. Comptez nos jours. Et je prendrai deux textes pour terminer cette partie qui est un peu la partie, on pourrait dire la partie un peu de fond. Après, on va voir un peu les applications pratiques dans la troisième partie. Comptez nos jours. Enseigne-nous ainsi à compter nos jours afin que nous en acquérions un cœur sage. Notre temps sera toujours un peu de temps par rapport à Dieu qui travaille pour et dans l'éternité. Et c'est dans la mesure où nous aurons un petit peu réfléchi, nous aurons compté nos jours, nous aurons réfléchi à cet emploi du temps, à l'utilisation de notre temps, que nous pourrons avoir de la sagesse. Et au sens biblique, c'est cette capacité à se conduire dans les détails de la vie d'une façon qui plaise et qui honore Dieu. Et cela sans forcément attendre les 80 ou 120 ans qu'avait Moïse à l'époque. Un autre verset qui est très important, c'est celui qu'on trouve, et qui est particulièrement en ligne avec notre sujet, notre thème général de la journée aujourd'hui, c'est celui qu'on trouve en Éphésiens, au chapitre 5, versets 15 et 16. « Veillez donc à marcher soigneusement » Ça, c'est les quatre actions dont j'ai parlé tout à l'heure. Non pas comme dépourvu de sagesse, mais comme étant sage, saisissant l'occasion parce que les jours sont mauvais. On l'a dit, 2009, ce n'est pas des bons jours. Ce qui est encourageant, c'est que l'apôtre Paul trouvait que ce n'était pas non plus des bons jours en 62 dans sa prison à Rome. Et l'état moral de la Rome antique, sans doute, doit être assez comparable à l'état de notre civilisation post-chrétienne. Juste une petite parenthèse, c'est qu'on a vécu pendant des siècles sous une influence chrétienne, au moins dans nos pays, suffisamment direct pour oublier que le christianisme s'est développé dans un contexte qui n'était pas favorable, fondamentalement. Alors le temps est court, Paul l'a dit en 1 Corinthiens 7, verset 29, et nous avons à transformer le chronos en kairos. Il y a deux mots en grec pour désigner le temps, il y a le temps qui s'écoule et le temps qui est l'occasion. C'est pour cela que suivant les versions, on va voir ce verset traduit par racheter le temps ou saisir l'occasion. Pourquoi ? Parce que le temps, c'est l'occasion qui se présente. C'est l'occasion qui est là. D'autres versions traduisent comme « tirer le meilleur parti du moment présent ». Alors soigneusement, ça nous fait penser à cette discipline, à cette chasse au chronophage, à ces occasions aussi d'une rencontre, d'une parole, d'un service, d'une pause de louange. Et puis, encore un mot sur le verbe « racheter ». Racheter, c'était aller au marché et puis prendre tout le stock. Et c'est le même verbe que l'on trouve dans l'Épître aux Galates, appliqué à notre rédemption. Et ça, c'est le point aussi que l'on peut retenir. C'est que l'œuvre de Christ à la croix nous a rachetés. Et nous a rachetés dans tous les aspects de notre vie, jusque et y compris dans l'aspect de notre gestion du temps. Notre rédemption englobe aussi cet aspect. De sorte que nous sommes encouragés à vivre la victoire de Christ par la foi, qui transforme notre temps en serviteur. Ce qui n'est pas une vision utilitariste qui amènerait facilement à de l'orgueil, à de la propre justice, où on essaierait d'optimiser chaque seconde pour satisfaire le Seigneur et qu'il soit vraiment bien content de nous, mais au contraire, où on entre dans la victoire et dans la libération que Jésus-Christ nous a accordée par sa mort et sa résurrection. On a du temps pour ce qui est important. Alors, qu'est-ce qui est important? Je vous suggère le temps des priorités. Et en premier lieu, mon temps avec Dieu. Le constat général, c'est que ce temps, il est trop court. Est-ce que quelqu'un dans cette salle pourrait se lever et dire « Moi, je suis satisfait de mon temps de prière. » Qui pourrait dire « Moi, je suis satisfait parce que j'étudie beaucoup la parole, ça va. » Pas besoin d'en rajouter, tout va bien. Je rajoute aussi un aspect qui me semble toujours important, c'est le chant. J'étais très touché de lire ce mot de Martin Luther. On rapporte cela de lui. Un jour où il avait beaucoup de choses à faire, il a dit « Oh, j'ai une journée très occupée, je vais passer une heure de plus en prière. » Qu'est-ce qu'on fait quand on a une journée très occupée? On raccourcit notre moment du début, voire même on le chante. Alors, comment faire par rapport à notre temps avec Dieu? Je vous suggère une approche, c'est de distinguer entre des temps différents, ce qu'on peut appeler les temps de première qualité. C'est les temps dont il nous est parlé dans le Sermon sur la montagne, quand il est dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre et après avoir fermé la porte, prie ton Père qui demeure dans le secret. » C'est un temps qu'on peut mettre à part pour Dieu, tranquille, voilà. Mais ce n'est pas le seul temps avec Dieu. Parce que sinon, comment comprendre les expressions « prier sans cesse », que « médite dans ta loi jour et nuit » Ce sont les temps de seconde qualité. Et peut-être nous pouvons nous encourager à développer ces temps de seconde qualité. C'est le temps de la ménagère qui épluche les carottes et qui peut tout aussi en même temps prier. C'est le temps de quelqu'un qui met dans les embouteillages un feuillet à côté de son lecteur GPS plutôt que de s'énerver pour méditer sur le verset du jour. C'est le temps... On a beaucoup d'occasions de temps morts, comme on dit. Et est-ce qu'on pourra en faire des temps vivants pour Dieu, de ces temps morts? Le temps d'une louange, le temps d'écouter un chant, même dans les transports en commun, c'est difficile de chanter, mais on peut au moins l'écouter. Maintenant, il y a tous les outils, iPod et tout ça, et pour nous aider. Utiliser ces temps de deuxième qualité. Le temps du couple, ils ne sont pas mimi, c'est de perroquet. C'est la complainte de beaucoup de femmes. « Ah, il n'a jamais le temps de m'écouter !» On raconte même qu'une femme qui avait beaucoup de peine à communiquer avec son mari, un jour a envoyé une lettre ouverte au journal que son mari lisait avec attention du début à la fin, pour être sûre qu'au moins, il lirait ce qu'elle avait à lui dire. Et le journal, assez humoristiquement, l'a publié. Là, le verset que j'ai cité du Cantique des Cantiques, « Mon bien-aimé m'a parlé et m'a dit, « Lève-toi, mon amie, ma belle, et viens, car ta voix est douce. » Ah, c'est l'initiative du bien-aimé. Je m'adresse au mari ici. Est-ce qu'on pourra avoir cette initiative? Viens, j'ai envie de t'écouter. Plutôt que « Oh là 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 !» Encore. Donc, le temps pour se parler, pour construire des couples harmonieux. Le temps aussi pour s'aimer, pour des relations intimes qui soient épanouissantes, pour éviter les frustrations et les tentations, il faut savoir prendre aussi ce temps-là, sans mauvaise conscience. Le temps de la famille, c'est un investissement utile. Tout à l'heure, un frère me disait qu'il avait la possibilité d'emmener son fils chaque jour à son travail, avec lui, un temps dans la voiture comme cela tous les matins. C'est fantastique. C'est un investissement. C'est un temps où on peut parler, comme le Deutéronome nous y encourageait. C'est un temps où on peut passer des moments de qualité. Gary Chapman dit que certains enfants sont particulièrement sensibles à cela. Passer du temps. Papa, il n'a jamais de temps pour moi. Ah, si on entend cela dans la bouche de nos enfants, il y a vraiment un problème. Seigneur, fais vraiment quelque chose. C'est que ma vie, elle est vraiment une vie d'affolée. Après, j'ai mis le temps du travail. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on développe une approche positive. Vous savez, en 62, quand Paul écrit l'Épître aux Colossiens, il y en avait qui n'avaient pas le temps. C'était qui? C'était les esclaves. Comme le dit le Seigneur dans la parabole de Luc 17, est-ce que vous croyez que l'esclave, après qu'il a travaillé toute la journée, il va pouvoir se reposer puis le maître va le servir? Absolument pas. Il va encore devoir lui apporter à manger et c'est seulement qu'après qu'il pourra trouver quelques heures de sommeil. Et esclaves, obéissez en tout temps, en tout à vos maîtres selon la chair, ne servant pas sous leurs yeux seulement, mais comme voulant plaire aux hommes, mais en simplicité de cœur, craignant le Seigneur. Quoi que vous fassiez, faites-le de cœur comme pour le Seigneur. Vous voyez, on retrouve cette vie orientée. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et non pour les hommes, sachant que du Seigneur, vous recevrez la récompense de l'héritage. C'est le Seigneur Christ que vous servez. Donc le temps du travail, ce n'est pas un temps à vite estamé pour ensuite arriver à des activités qui seraient vraiment pour le Seigneur. C'est un temps à vivre pour lui. Ce n'est pas un temps perdu. C'est un temps pour servir, pour aussi jouir de cette capacité de travail que le Seigneur nous a donnée. Et il saura le récompenser. On recevra la récompense de l'héritage si on le fait de cœur comme pour le Seigneur. Le temps de l'Église, oh, on aurait pu dire beaucoup de choses. J'ai juste retenu ce texte d'Hébreux 10, versets 24 et 25, parce qu'il y a un mot qui toujours fait un peu tilt. C'est « Veillons les uns sur les autres pour nous stimuler à l'amour et aux bonnes œuvres, n'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes comme certains ont l'habitude de le faire. » Oh là là, il y en a qui ont des bonnes habitudes, puis il y en a qui ont l'habitude d'abandonner le rassemblement. L'habitude, la réunion du soir, le mercredi ou le jeudi, c'est pas dans l'agenda, c'est « out of scope ». Le dimanche après-midi, ben c'est si on n'est pas trop fatigué ou si on est invité chez des amis qui ont... Ouais, qui eux, ils vont. C'est un sacrifice de temps. Pourquoi il les a parlé de sacrifice de louange? Franchement, qu'est-ce que je sacrifie en venant le dimanche matin? Je sacrifie une grâce matinée, je sacrifie du temps pour Dieu. Alors, est-ce que c'est la priorité dans nos agendas? Sans légalisme, on ne va pas tomber dans le syndrome de ceux qui se culpabilisent toute la semaine s'ils n'ont pas pu sortir une réunion. Mais néanmoins, on a à cœur de mettre ça comme une des priorités dans notre agenda. Le temps du service. Alors là, il y a deux pièges. Il y a le piège de la paresse et le piège de l'activisme. Il y en a pour qui le service aussi, ça, c'est pas dans le radar. Parce qu'ils sont tellement occupés avec leur famille, avec leur travail, avec leur petite vie pépère, que le service, c'est pour les... De toute façon, il y en a bien qui sont à plein temps, hein, puis on donne ce qu'il faut pour eux. Donc voilà, il y a les spécialistes. Supplier le Seigneur de la moisson, qu'il pousse des ouvriers dans sa moisson. Alors on peut solliciter affectueusement, on peut encourager, mais ne fais pas boire un âne qui n'a pas soif. Il faut que ce soit le Seigneur qui suscite ce désir dans ce cœur, de s'avancer pour servir. Mais je désirerais peut-être insister davantage sur le deuxième aspect, le piège de l'activisme. Tu t'inquiètes et tu te tourmentes pour beaucoup de choses, disait le Seigneur à Marthe. Il y avait un frère à l'œuvre qui avait l'habitude de signer à la fin, à la hâte, votre chair. Je ne vois pas le Seigneur Jésus signer une lettre « à la hâte, votre chair, je suis désolé ». C'est sûr que ce frère, il était serré par l'ampleur des besoins qu'il voyait autour de lui, etc. Mais peut-être qu'il avait un problème de délégation et aussi de prise de conscience de sa finitude. Le Seigneur, quand il partait d'une bourgade pour aller prêcher dans une autre, on voit ça en Marc 1 par exemple, il n'avait pas guéri tout le monde. L'infirme du temple, il était là depuis longtemps. Quand Pierre et Jean l'ont guéri, Jésus ne l'a pas guéri. Jésus n'a pas prêché à tout le monde, il n'a pas guéri tout le monde, mais il allait à une autre place. C'est important cela. L'ouvrier est plus que l'œuvre, le caractère est plus que l'acte, et ce que je suis est plus important que ce que je fais. Ne nous croyons pas tellement indispensables à l'œuvre du Seigneur, et faisons attention aussi au burn-out. Et ça me conduit à ce dernier aspect, le temps du repos. Là aussi, je vais y passer un tout petit peu plus de temps parce qu'on a un problème avec ce sujet. Hein? Soit on s'adonne aux délices d'en faire trop, hein, jusqu'à quand paresseux resteras-tu couché, ou alors trop peu. Ou si on prend un peu de congé, on se dit oui, mais en même temps, moi j'ai pris des vacances là, et puis en même temps, il y en a qui font un camp et qui se dévouent pour le Seigneur, et moi je suis sur mon transat, est-ce que je fais bien, etc. Ce qu'on peut voir, c'est que la parole de Dieu a des paroles sages. Dieu a institué le sabbat pour l'homme, pour son bien, une journée de repos par semaine. On n'a pas cette journée de repos par semaine. Peut-être justement parce que le samedi, c'est le jour du consumérisme. Peut-être, que sais-je, parce qu'on meuble trop. Mais ayons à cœur ce repos hebdomadaire. Le repos de la nuit, je n'ai pas commencé par cela, le repos quotidien de la nuit. C'est sûr que Napoléon, lui, il avait la capacité de dormir 4 heures par nuit et de dicter et de faire 36 choses à la fois. Si on a besoin de 9 heures pour être heureux et paisible et détendu et manifester le fruit de l'esprit, prenons nos 9 heures de sommeil. Dieu nous a construits comme cela et il ne nous demandera pas compte de plus. Et je n'ai pas à regarder avec envie ce frère qui, lui, n'a besoin que de 6 heures et peut lire 2 fois plus de livres que moi, je peux en lire. Ce n'est pas là le problème. Et sans parler aussi du repos de sabbatique, tous les 7 ans, repos. Rendez compte, qui vit ça? Alors que faire pendant ces temps de repos? Eh bien, on peut faire un repos sans rien. Parfois, on est vraiment fatigué, c'est quelque chose qui peut être utile. Mais on peut avoir aussi un repos actif. Un repos actif, un repos qui nous permet d'admirer la nature de Dieu, qui nous permet de nous ressourcer d'une bonne manière. Et là aussi, je pense qu'il faut qu'on ait des réflexions vraiment sérieuses sur ce sujet. Alors, une petite récapitulation. D'abord, ce verset de Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le soleil. Et je vous propose, certains ont déjà eu l'occasion de voir cela, cette hiérarchie des priorités. Ça, c'est, me semble-t-il, on n'a pas le temps de l'argumenter ici, mais il faudrait chercher à partir de 1 Timothée et de Tite pour justifier que c'est bien l'ordre selon Dieu. De la vie personnelle jusqu'à la vie de repos en passant par le couple, la famille. Ça ne veut pas dire que je vais allouer le même temps dans une journée quand je travaille 9 heures, mais je ne consacre pas 9 heures ou 9 heures plus quelques minutes à ma vie personnelle avec Dieu. Mais si mon activité professionnelle m'empêche d'avoir un temps prioritaire pour Dieu, c'est qu'il y a un problème et que, Seigneur, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est le temps de la conclusion. Et tout d'abord, 2 questions. Et si la gestion du temps, de mon temps, m'angoisse? Eh bien, rappelons-nous que nous vivons dans la grâce de Dieu. C'est particulièrement vrai, j'en discute avec Anne assez souvent, quand on est une femme au foyer, qu'on a, dire, quand on travaille, ben, on sait que l'horaire, ça commence à telle heure, ça finit à telle heure. Quand on a peut-être moins de contraintes et moins de pression externe sur son emploi du temps, c'est plus difficile. Mais souvenons-nous que la grâce dans laquelle nous sommes, c'est la vraie grâce de Dieu. Et on peut exposer ce sujet de la gestion de notre temps devant Dieu. Et on constatera que Dieu fera infiniment plus, non pas forcément en quantité, non pas forcément en choses faites, mais en réalisation de paix intérieure dans notre vie que ce que nous demandons ou pensons. Et puis, si j'ai mal géré, si on peut se demander, pour ceux qui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans plus, eh bien, j'ai perdu tant d'années dans ma vie à des choses inutiles, etc. La promesse de Joël, chapitre 2, verset 25. « Je vous rendrai les années qu'a mangé la sauterelle, l'élec, la locuste et la chenille. » Et ce sera un moment, le temps des récompenses, le temps du repos pour le bon et fidèle esclave, le temps des couronnes pour celui qui a combattu le bon combat, qui a gardé la foi, qui a achevé la course. Et puis pour certains, le temps peut s'écouler très lentement parce que c'est un temps de souffrance. C'est un temps où on est cloué au lit. C'est un temps où on ne sait pas comment utiliser son temps. Un jour, avec mon père, on est allé visiter une vieille sœur dans une maison de retraite. Et c'était peu de temps avant la fin de sa vie. Elle a pris les mains de mon père et elle lui a dit: « Vous savez, monsieur Prouin, je prie pour vous chaque jour. » Et elle a eu des paroles vraiment touchantes. Ça m'est vraiment resté. Et ce temps-là, ce temps qui peut être un temps d'arrêt, un temps d'épreuve, un temps de souffrance, eh bien, est à mettre en face. C'est ce que ce verset de 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18, nous invite à faire face à l'éternité, le présent face à l'éternité, la tribulation de moment, le poids éternel de gloire. Que ce soit un encouragement. Peut-être ils ne sont pas là dans cette salle aujourd'hui, peut-être qu'ils écouteront si l'enregistrement est diffusé, pour tous ceux qui sont dans cette situation. Et bien de savoir que le temps de la souffrance est aussi un temps d'opportunité de la part de Dieu. Alors, le temps, va bientôt prendre fin. On ne va pas se lancer dans de grandes spéculations sur l'éternité, ça nous dépasse tellement. Un jour le temps ne sera plus, mais néanmoins la parole utilise cette expression, les siècles au pluriel des siècles. Qu'est-ce que Dieu nous prépare? Nous ne le savons pas, nous pouvons nous confier en sa grâce. Mais dès aujourd'hui, la vie éternelle est là. Cette vie qui peut orienter notre temps. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et ma prière, notre prière, c'est que notre temps soit passé en une vie paisiblement active à la gloire de Dieu. Paisiblement active à la gloire de Dieu, avec les bonnes priorités.